Vous écoutez RTL.
Tout de suite, embarquement pour un voyage au cœur du danger avec le photographe Laurent Mamel. Alors, vous êtes un vrai aventurier qui n'a pas froid aux yeux puisque votre passion, ce sont les volcans et vous adorez leur tirer le portrait, surtout quand ils sont très en colère.
Bonjour.
Bonjour. Elle date de
Bonjour,
quand
Thomas.
Elle est, cette passion pour les volcans.
Elle date d'il y a une vingtaine d'années, lorsque je suis allé en Sicile sur le Stromboli et l'Etna. Mais auparavant, il y avait eu déjà pour quelques prémices où j'avais été en Islande, mais ce n'était pas en éruption. Et de l'Islande, cette passion est née. Je me suis dit, j'ai envie de voir une première éruption. Et puis la passion de la photographie aussi m'a pris à ce moment-là.
Et c'est vrai que le Stromboli, j'ai eu la chance de grimper et de le voir de nuit cet été. C'est juste un spectacle magique. Restez avec nous. On vous offre une recette de steak de thon cuit sur lave. Ben oui, on recule devant rien dans la curiosité. À tout de suite sur RTL.
RTL.
Je m'excuse de t'avoir sorti de ta tanière, mais on a observé un peu d'activité autour du pic de Dante.
La curiosité est un vilain défaut.
Je croyais que pour tout le monde, le pic était un volcan éteint.
Pas éteint, juste dormant.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Et votre volcan est peut-être en train de se réveiller.
Il était un volcan.
Si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, soyez les bienvenus. Un amical salut à Evan qui nous dit que la curiosité, c'est la meilleure, enfin en tout cas l'une des meilleures émissions de radio sur Twitter.
On va progresser pour qu'ils disent c'est la meilleure émission de radio. Voilà.
Alors aujourd'hui, merci, on vous fait découvrir les secrets d'un métier très chaud, photographe de l'extrême. Pour en parler avec nous, Florent Mamel. Alors, vous faites des voyages au cœur de ces monstres de la nature. Qu'est-ce que c'est l'équipement pour aller photographier un volcan en éruption de préférence ?
Un casque.
Ça suffit.
Un masque à gaz. Ouais. Des gants en cuir pour se protéger. Et tout le matériel de photographie en double. Deux appareils photo, deux trépieds. Parce qu'on ne sait jamais si jamais il y en a un qui tombe, qui se casse.
Qui fond ?
Non. Qui font un appareil photo, c'est comme le corps humain. Ils n'aiment pas ce que je n'aime pas.
Aussi,
voilà. Oui. Donc en fait, la règle numéro un, c'est si c'est trop chaud pour moi, c'est trop chaud pour lui. Il ne faut pas que je laisse le trépied devant moi et moi je vais boire une bière.
Sinon il crie. Reviens.
Sinon il s'arrête.
Le casque, il est en quelle matière ? Parce que je me suis posé la question cet été au Stromboli en Italie. J'avais un casque en plastique. Je me suis dit, ça ne va pas résister à grand chose.
Moi, je pense que c'est l'effet placebo.
Oui, c'est ça.
Ça résiste, si, il peut y avoir un petit éclat qui rebondit. Bon, mais si c'est une grosse bombe, ça changera pas grand-chose.
C'est trop tard, au revoir.
Jusqu'à combien peut monter la température en fait sur...
La lave est à 1200 degrés.
Ah. Vous dites ça avec une petite voix tranquille. Vous vous en approchez beaucoup de
Alors ça
lave.
Dépend si c'est... par exemple, si c'est un lac de lave, je vais essayer de m'approcher au plus près du bord, en évitant que ça s'effondre évidemment. Et ensuite, la température, ça dépend si le lac est profond ou c'est proche de la surface. S'il est à 3 mètres de la surface, je vais avoir du mal à rester très longtemps. Et il y a ce que j'appelle un mur de chaleur. C'est-à-dire qu'on peut s'approcher, puis d'un seul coup, c'est un peu comme rentrer dans la tête dans le four, on s'arrête.
C'est pas progressif en quelque sorte.
C'est progressif, mais mon expérience fait qu'à un moment, ça s'arrête. On ne peut pas faire un centimètre de plus. Quoi.
Mais alors, à un moment, il fait si chaud que vous pouvez sortir. C'est ce que rappelait Toba en vous lançant. Là, un steak de thon. Qu'est-ce qui s'est passé là, ce jour-là ?
C'est quoi cette recette ?
Alors, déjà, il faut un équipement très particulier. Il vous faut un bâton de marche.
Le cuisinier de l'extrême.
Il vous faut une paire de chaussures de rechange.
Un steak de thon.
Et puis un steak de thon et un ustensile en métal pour le poser dessus.
Une poêle à frire.
Et le bâton pour essayer de le poser sur la lave. Alors c'est quand la lave avance doucement, hein, c'est pas un fleuve, c'est pas le Rhône qui descend. Là vous aurez du mal à récupérer le steak.
On maîtrise la cuisson.
C'est le pire steak que j'ai jamais mangé.
Bah oui,
mais j'ai progressé. L'année dernière, j'ai fait un steak de bœuf qui était très bon.
Alors, on connaît les tempêtes de sable dans votre livre « Volcan » publié aux éditions National Geographic. On découvre aussi les tempêtes de cendres. C'est quoi une tempête de cendres ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle les coulées pyroclastiques. Alors là, c'est vraiment de la cendre très chaude et des gaz très chauds qui descendent à 300 km/h, qui sont à 600 degrés. Et puis, à d'autres occasions, c'est le vent qui tournoie et qui renvoie sur vous des gaz toxiques, d'où l'intérêt du masque à gaz. Et puis parfois on voit plus rien. Quoi. Dans ces cas-là, il faut juste reculer jusqu'à ce que ça se calme.
Donc tempête de cendres, c'est ça. C'est ce moment où il y a tellement de cendres.
C'est ce moment où
on voit plus rien.
Alors voilà, ça peut être des gaz, ça peut être de la cendre qui s'échappe du volcan. Et puis si le vent tournoie, ce qui arrive souvent, bah, ça revient vers vous et puis il faut attendre. Quoi.
Alors, un volcan, c'est très chaud, mais paradoxalement, il peut aussi faire très froid. Ça, c'est une autre histoire. Vous avez eu froid où ? Au Guatemala, je crois ?
Alors, ça, j'ai eu froid récemment au Guatemala, mais l'endroit où j'ai eu le plus froid, c'était en 98 à l'Etna. C'était au mois d'août. Et donc, je débutais. C'était mon premier beau voyage et je m'étais dit, enfin, je n'imaginais même pas qu'il pourrait faire froid au mois d'août en Sicile. Bon, bah, sauf que c'est à 2900 mètres d'altitude, vous avez beaucoup de vent.
Mais ça, il faut le dire aux auditeurs, c'est-à-dire que si vous allez un jour, si vous montez les flancs de l'Etna, il faut prévoir une petite laine et un...
Ah non, pas une petite laine, oui, enfin, un coup de vent, parce que surtout si vous passez la nuit donc sans bouger, déjà eu l'effort de monter... Et là, le froid vous pénètre et vous avez claqué des dents toute la nuit. Ça, c'est...
Oui, parce que si on monte par ses propres moyens, d'ailleurs, il n'y a pas d'autre option, on monte à pied, donc on arrive, on est transpirant, on a eu chaud.
Généralement.
Parce que c'est un effort physique.
Généralement, oui.
Donc il faut se changer, mettre un coupe-vent.
Oui, un coupe-vent, enfin, tout ce que vous pouvez, enchaîner les couches, 2, 3, 4, 5. Et donc, cette année, donc maintenant, je suis très équipé. Et au Guatemala, effectivement, il y a eu une expédition où le temps a été absolument épouvantable. Et je me suis demandé comment mon guide et les porteurs avaient survécu à cette nuit. Et d'ailleurs, ils se le sont demandé le lendemain matin. Quoi.
Vous viviez où ? En France ou
Je vis en Malaisie.
Et pourquoi la Malaisie alors ?
Bah, à portée de la Malaisie, vous avez l'Indonésie avec 130
volcans. Ah oui, mais pourquoi pas l'Indonésie alors du coup ?
Parce que j'aime les grandes villes, je suis un citadin. Et Jakarta, la pollution, les bouchons, non, c'est un enfer. Quoi.
Donc vous vivez en Malaisie parce qu'en Indonésie, il y a 130 volcans, c'est
actifs,
ça ?
Oui. C'est là où il y a le plus de volcans actifs au monde.
Alors en France, il y a des volcans inactifs. Hein, en Auvergne, on n'est pas peu fiers parce que la magnifique chaîne du Puy vient d'être classée au patrimoine mondial de l'humanité. Ils ne se réveilleront jamais, ceux-là.
Alors, il y a peu de chances qu'ils se réveillent, mais en revanche, je vous encourage à aller voir Vulcania, c'est magnifique. Même après avoir vu plein d'éruptions, j'adore aller à Vulcania.
Ah, même vous, vous êtes bluffé par Vulcania ?
Voilà, j'aime bien.
C'est une bonne idée de balade et de visite. Tiens, pour le week-end prochain, les images de votre livre, Florent Hamel, Volcans aux éditions National Geographic, sont vraiment époustouflantes. D'ailleurs, c'est tellement beau que vous avez failli en mourir. Comment peut-on mourir de beauté ? Réponse à venir sur RTL.
RTL.
C'est l'histoire d'une quête scientifique exceptionnelle.
La curiosité est un vilain défaut.
La recherche d'un mystérieux volcan qui, en plein Moyen-Âge, au XIIIe siècle, produisit une éruption phénoménale.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
L'une des plus gigantesques de ces 10 000 dernières années.
Arrivé au pied du Vésuve, ce vieil homme écrivait ces quelques mots.
Aïe, 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 purée, c'est chaud, un volcan, franchement, je suis trop con, j'aurais dû prendre les gants.
Quand Eric et Ramzi revisitent l'histoire de l'éruption du Vésuve, on se passionne pour les volcans sur RTL, dans la curiosité avec notre invité Florent Hamel, photographe. Vous partez un peu partout sur la planète pour photographier ces volcans en éruption. Ça donne des photos magnifiques dans ce livre chez National Geographic. Et une exposition aussi à voir bientôt ?
Oui, à partir du 1er octobre pour 2 semaines à la mairie du 7e arrondissement. Aux heures d'ouverture de
la mairie.
À Paris.
Bon, ben voilà. Pour ceux qui vivent à Paris, en région parisienne, ou qui passent par Paris, ne ratez pas cette expo. Je disais tout à l'heure, mourir de beauté, Anaïs, qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase ?
Mais oui, parce que vous avez vécu une expérience un peu saisissante, c'était à Hawaï, et vous êtes tout d'un coup tellement fasciné par la beauté que le volcan vous offre, vous êtes encerclé par la lave, racontez-nous.
Alors c'était en 2007, et la lave descend assez lentement sur la pente du Kilauea, et donc on a le temps de la photographier, de tourner autour, on l'entend crépiter comme de la glace pilée, et on n'a pas vu qu'une autre langue de lave était en train de couper notre voie d'accès, et donc d'un seul coup on s'est dit il fallait évacuer, et puis surtout trouver une nouvelle voie. Quoi. Et donc le problème a été de marcher sur des laves juste solidifiées, parce que ça solidifie assez vite, une croûte noire se met sur la surface, mais dessous, ça reste très chaud. Mmh. Et donc, on s'est retrouvé sur un terrain qu'on n'avait pas traversé à l'aller. On ne savait pas combien de mètres on pouvait avoir à faire sur. Et donc, il y a plusieurs risques. Bon, le premier, évidemment, c'est de ne pas y arriver. Et le deuxième, c'est que ça s'effondre et qu'on mette le pied dans de la lave à plusieurs centaines de degrés, le pied ou plus. Quoi.
Vous avez déjà été blessé ?
Jusqu'à présent, non.
Vous donc, y pensez à ça ? Parce que les aventuriers, les gens qui prennent des risques, disent que souvent qu'ils ont ce risque dans un coin de leur tête. Ça ne veut pas dire que ça les rend peureux. Au contraire, ça leur permet de prendre les décisions avec lucidité. Est-ce que vous ressentez ça ?
Ah bah, je crois que la lucidité est la première chose à avoir, bien sûr. Le risque zéro, évidemment, sur ces endroits-là, n'existe pas.
Surtout que c'est très imprévisible, un volcan, en réalité.
Alors, il y a des événements très imprévisibles. Une éruption importante qui arrive, ou une explosion plus forte qu'une autre. ou une falaise qui s'effondre, ou une coulée de lave. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne peut pas prévoir, parce qu'elles sont soudaines. Mais sinon, il y a aussi des signes, avec l'expérience, qu'on peut arriver à détecter. Si on voit que le volcan, si c'est une explosion, par exemple, si on voit que les explosions sont de plus en plus fortes, et si elles vont dans notre direction, ça veut dire que le conduit du volcan s'est ouvert dans notre direction, et que s'il pousse plus fort, ça va venir encore plus près. Donc là, il faut reculer.
Et parfois, il faut trouver refuge. Et je crois que c'était à Sumatra où vous êtes réfugié dans un drôle d'endroit. C'était quoi ?
Ah, c'était une mosquée.
Ah ben oui, c'est pas un drôle d'endroit, un lieu de culte, on va dire.
En Indonésie, à Java, oui. Il se trouve que la mosquée était le point le plus élevé de ce village qui avait été pris par une coulée pyroclastique. Donc la coulée pyroclastique, j'en ai
ultra
parlé
rapide
tout à
l'heure. Dont vous parliez tout
ultra
à l'heure.
Ultra rapide et qui brûle tout sur son passage. Mm-hmm. Et comme elle était au-dessus, elle avait été épargnée de la précédente coulée.
Vous dites que les arbres explosent, c'est ça ?
Bon, les arbres sont brûlés par le passage de la coulée pyroclastique, et la coulée est tellement énorme que si vous regardez les photos qui sont sur le livre, ça, on dirait des allumettes par rapport à la taille du nuage. Quoi.
Mais justement, il est tellement beau votre livre qu'on a eu envie avec Thomas de l'offrir
c'est une bonne idée, ça.
À nos auditeurs. Donc si vous voulez le livre de Florent Mamel, Volcan aux éditions National Geographic.
Il va falloir aller vite.
Oui, vous tweetez sur La Curiosité RTL et puis on vous l'enverra avec grand plaisir.
Donc attendez, il faut être précis, c'est pour qui ? C'est pour le premier auditeur tweet quoi. J'aime les volcans.
J'aime les volcans.
Allez, on fait ça. C'est parti.
On fait ça.
À vos téléphones.
Merci beaucoup, Florent Mamel.
Merci.
Passé dans le studio City de RTL. Ça vous repose un peu des coulées de lave.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.